Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Cela devait être Francfort, cela aurait pu être Dublin. Finalement, c'est Paris qui va hériter du siège de l'Agence bancaire européenne. La décision s'est jouée la semaine dernière, sur tirage au sort. La capitale française bénéficie du démembrement des institutions européennes installées au Royaume-Uni. Pour Paris, le Brexit a du bon. Voilà donc la France dotée d'une nouvelle agence européenne après l'autorité des marchés financiers. De quoi en faire un pôle d'attraction pour les acteurs du secteur bancaire. De quoi également renforcer peut-être la politique de régulation, étant entendu que les anglo-saxons ne sont pas les plus zélés dans ce domaine. Les Français ont quelques arguments a priori à faire valoir pour preuve de leur capacité à être proactifs en la matière. N'est-ce pas un commissaire européen français, Michel Barnier, qui proposait en 2014 un projet de réforme structurelle des principales banques européennes? N'est-ce pas la France qui s'est dotée en 2013 d'une loi de régulation et de séparation des activités bancaires? Oui, mais depuis, que s'est-il passé? Régulation bancaire, une question d'autorité. Et voilà le sujet qui va nous occuper ce soir. Enfin, quand je dis nous, je devrais dire vous, en m'adressant à nos trois invités du soir. Isabelle Coupé-Soubéran, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vous enseignez notamment l'économie financière à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, conseillère éditoriale au CEPI. Vous avez publié chez Michalon, c'était en 2015, Blabla Banque, le discours de l'inaction. Pour discuter avec vous, Philippe Tibi, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de finance à l'école polytechnique. Vous enseignez également à l'université de commerce international de Pékin et puis également à Shanghai, notre université. Vous avez publié l'an dernier chez Erol avec Francis Kramars, Plus de marché pour plus d'État, ce qui vous a valu de recevoir le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière. C'est peut-être le sort qui sera réservé à l'ouvrage que vous venez de publier. Frédéric Pelletier, bonsoir.
Bonsoir.
L'ouvrage que vous venez de publier s'intitule Le procès de l'argent aux éditions Albin Michel. Procès, pourquoi? Bien parce que vous êtes avocat, spécialiste de droit financier. Vous êtes passé par un certain nombre d'institutions, notamment la Banque de France et la BNP. Tout ça, c'était il y a quelques années. Alors, on va donc parler ce soir de cette autorité bancaire européenne qui va bientôt arriver à Paris et voir en quoi la régulation bancaire a avancé ou pas au cours de ces dernières années. Mais restons donc sur cette annonce faite la semaine dernière. Alors, il va y avoir un impact en termes d'emploi. Impact assez limité, il faut bien le dire, s'agissant des emplois directs. Je crois que c'est 170 emplois pour cette agence bancaire européenne. Est-ce qu'en termes d'attractivité de la place parisienne, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre d'établissements et d'établissements bancaires qui vont avoir, disons, envie de s'installer à Paris à la faveur justement de ce déménagement, je les appelle Coupé-Soubéran?
Alors oui, ça peut sembler surprenant au fond, hein, quand une autorité de régulation s'installe quelque part, cette idée que ça peut accueillir, ça peut attirer en tout cas des banques. Alors ce qu'il faut savoir au fond, c'est que les banques apprécient de pouvoir s'installer aujourd'hui au plus près du régulateur. Alors pas forcément directement d'ailleurs, mais en venant installer un certain nombre de représentants de leurs intérêts, un certain nombre de lobbyistes, hein, par exemple les grands groupes bancaires, dépensent des centaines de milliers d'euros chaque année, voire parfois des millions d'euros, pour aller s'installer au plus près de la Commission européenne. Et pour quelle raison? Eh bien parce qu'ainsi, il devient plus facile de démarcher l'autorité en question, d'aller faire valoir ses intérêts, d'aller faire valoir des doléances, et ainsi, eh bien, d'influencer la fabrication de la réglementation bancaire. Donc, à n'en pas douter, la venue de l'autorité bancaire européenne à Paris va sans doute accélérer ce processus de réinstallation des banques et des autres entités financières qui auparavant étaient à Londres, qui cherchent aujourd'hui un point de chute en Europe pour conserver leur passeport européen et qui vont sans doute choisir de venir.
C'est vrai que vous avez raison d'insister sur ce côté a priori surprenant pour les néophytes en tout cas, parce qu'on peut se dire pour quelle raison s'approcher d'aussi près de ce qui est présenté. Alors c'est un régulateur, mais on pourrait aussi parler de gendarme, un des gendarmes des activités bancaires au niveau européen. Donc je me disais peut-être que des établissements bancaires, Philippe Tibi, pourraient se rapprocher au plus près, parce que finalement c'est quand on est le plus près qu'on nous voit le moins, mais c'est pas ça.
Le gendarme est plutôt à Francfort, puisque ce sont les autorités de supervision et de résolution, c'est-à-dire de liquidation des banques en cas de problème, qui elles sont basées à Francfort avec des effectifs beaucoup plus importants.
Donc gendarme, ça conviendrait pas pour cette autorité
non,
bancaire européenne.
Non, c'est ceux qui élaborent les règles, qui transposent les directives. Donc moi, personnellement, je pense que ça aura un impact très limité parce que oui, il est important d'être près des régulateurs pour les influencer. Chaque profession essaye d'influencer la loi lorsqu'elle est concernée. Ce sont des équipes modestes. Je pense qu'effectivement, les banques pourraient envoyer quelques personnes, un département chargé de gérer du contact avec les affaires publiques, c'est-à-dire des responsables d'affaires publiques, mais vous ne déplacerez pas des traders ou des salles de marché parce qu'il y a une autorité bancaire qui, je pense, dont le rôle est moins important que ce qui est basé à Francfort aujourd'hui.
Francfort qui logiquement d'ailleurs, enfin en tout cas était la place favorite justement pour accueillir cette autorité bancaire européenne. On voit que les Allemands n'ont pas beaucoup eu de chance sur ces dernières attributions. Votre analyse, vous, Frédéric Pelletier, sur l'impact que ça peut avoir pour
Paris?
Moi, je
suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'impact principal du Brexit, c'est la course que vont mener les banques pour conserver leur passeport européen. Peu importe où se trouvera l'autorité bancaire européenne qui a, je dirais, un rôle plus de réflexion. C'est l'institution aussi qui a mis en place la méthodologie des stress tests et qui fait fonctionner ces tests de résilience pour mesurer la capacité des grandes banques, des grands établissements dits systémiques à ne pas entraîner une faillite des autres.
Donc ça veut dire que pour vous, cette autorité bancaire européenne, ça n'est pas une institution majeure, en tout cas dans le cas qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire celui de la régulation?
Jusqu'à présent, elle a pas eu...
Elle est jeune, elle date de 2011.
Voilà, elle n'a pas eu encore un rôle majeur, et je pense que d'ailleurs sa localisation à Londres pouvait l'expliquer en partie, parce que la réglementation européenne soit basée dans un pays qui n'était pas dans la zone euro, c'était une situation un peu iconoclaste, un peu cocasse, et je pense que la relocalisation de cette autorité à Paris et au milieu de l'Europe, dans la zone euro, va sans doute lui donner un rôle beaucoup plus important à l'avenir, ça c'est certain.
Isabelle Coupet-Soubéran, sur l'importance de cette autorité bancaire européenne.
Je crois qu'il faut préciser un peu le partage des tâches. Si on reprend votre expression de tout à l'heure, le gendarme des grandes banques européennes, effectivement, c'est la Banque Centrale Européenne.
Qui
est à Francfort. Donc cette surveillance des grandes banques européennes a été confiée à la Banque Centrale Européenne dans le cadre de l'Union bancaire. L'autorité bancaire européenne, au fond, lorsqu'elle a été créée en 2011, aurait pu progressivement devenir ce gendarme. Elle n'est pas devenue ce gendarme parce que c'est une autorité qui a eu des difficultés à devenir crédible. Déjà, c'est une autorité qui a été mise en place avec assez peu de moyens humains et financiers, qui au départ a rhabillé un comité de concertation des superviseurs bancaires européens. Très peu de moyens humains et financiers au départ, et pourtant lui a été confié un exercice assez difficile dès 2011, à savoir un exercice d'évaluation de la capacité de résistance des banques européennes à des scénarios macroéconomiques difficiles, stressés. Ces fameux exercices de stress test. Et là, eh bien, l'autorité bancaire européenne a sérieusement perdu en crédibilité parce que les résultats qu'elle a communiqués dans le cadre de cet exercice étaient assez peu en phase avec la réalité du moment. 2011, on entre dans la crise, enfin on est même en plein dans la crise des dettes souveraines. Elle, un petit peu auparavant, avait été communiquée également des résultats qui n'étaient pas du tout en phase avec les difficultés des banques irlandaises. Dans ce fameux stress test de 2011, l'autorité bancaire européenne nous dit en gros, bon, le secteur bancaire européen, et ça sur la base d'un petit nombre de banques qu'elle avait évalué, est plutôt en capacité de résister. La banque Dexia, notamment, respectait, en tout cas, réussissait, si vous voulez, ce stress test un peu haut la main, et puis peu de temps après, elle tombe en faillite. Donc la BE a vraiment perdu des plumes dans cet exercice-là, et elle n'a pas pu être choisie comme le superviseur, comme le gendarme des banques, des grandes banques de la zone euro. C'est la BCE qui a pris ce rôle-là. Cela étant, la BE aujourd'hui a un rôle quand même en matière, si vous voulez, d'élaboration des règles. Et pour les banques, c'est important finalement de regarder et d'essayer d'influencer la fabrication de ces règles. C'est la raison pour laquelle elles peuvent chercher à venir s'installer au plus près de la BE.
Philippe Thiby, est-ce que vous partagez ce bilan qui est un bilan qui ne porte que sur 6 années d'existence, qui est forcément à compléter, mais que vient de faire Gisabelle Coupé-Soubéran? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'en venant à Paris, après avoir été à Londres, l'autorité bancaire européenne va peut-être gagner en importance, puisque comme le soulignait Frédéric Pelletier, le fait de l'avoir mise à Londres dans un pays où la régulation n'est peut-être pas la première des préoccupations, ça lui donnait aussi une importance un peu moindre.
Je pense que ça dépendra de la qualité de son travail. Parce que le vrai problème, je pense, pour cette institution aujourd'hui, c'est non pas une duplication avec la BCE, parce que les champs sont différents, mais quand même...
Et clairement répartis.
Ils sont clairement répartis, mais quand même, quand vous êtes la BCE, vous êtes compétent, puisque eux sont crédités d'une forte autorité, ils ont accès aux données, ils parlent au quotidien avec l'ensemble des banques, les 130 banques importantes de l'Union européenne, et que vous avez en fait... La zone euro qui est maintenant dans l'Union européenne va être la quasi-totalité de l'espace bancaire, parce que ce qui va manquer, enfin ce qui n'est pas dans la zone euro, c'est la Pologne, le Danemark et un troisième pays que j'ai oublié. Donc vous avez en fait une autorité bancaire européenne qui peut être éclipsée. Quand elle avait le Royaume-Uni, elle avait une densité, elle avait non pas la supervision de la City, mais en tout cas elle avait l'autorité que lui donnait la City. Lorsqu'elle sera à Paris, il faudra qu'elle démontre par la qualité de son travail, par la justesse de sa réglementation, qu'elle est capable de résister à la force des autorités de supervision qui sont à Francfort. C'est plus de 1000 personnes. Vous voyez,
Donc on peut imaginer une forme de compétition entre les deux places.
Je pense qu'il y a un risque d'étiolement et de duplication. Et quand il y a duplication, ce sont les plus forts qui gagnent. Alors, mais encore une fois, les domaines d'action ne sont pas les mêmes. Mais la supervision au quotidien, ça n'empêche pas les gens de réfléchir.
Est-ce qu'en tout cas on peut imaginer, Frédéric Pelletier, que la nature, ou en tout cas la philosophie de la régulation bancaire telle qu'elle sera pratiquée désormais par l'autorité bancaire européenne va peut-être évoluer justement parce qu'elle change de pays et donc de philosophie? Dans un article, dans une tribune récente que vous avez signée pour Les Échos, donc vous évoquiez cette incongruité à voir cette autorité implantée dans un pays qui avait obtenu d'être exonérée de certaines règles européennes sur les services financiers, ce qui vous vaut cette formule. Il s'agissait donc d'un Brexit bancaire avant le Brexit total. Est-ce que là, justement, ça peut changer la nature de la régulation?
Alors, je voudrais faire deux réponses. Sur la nature de la régulation, il est certain que le retrait dans la définition des règles qui doivent s'appliquer aux banques, le retrait de l'influence de l'Angleterre, de la Banque d'Angleterre, aura des conséquences, c'est certain. La Banque d'Angleterre, la finance anglaise est très perméable au marché, très perméable, beaucoup plus perméable que qu'on le voit ici en France ou sur le continent européen au lobby bancaire. Donc il y aura vraisemblablement des modifications et une inflexion. Je voudrais revenir sur l'autre problème qui est la question de quel sera le rôle et le pouvoir de cette autorité implantée à Paris. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en matière de régulation bancaire et de supervision, il y a toujours eu une concurrence entre, je dirais, le banquier central et le régulateur. Le banquier central, la Banque de France ou la BCE, est l'organisme qui est en charge de la politique monétaire. La politique monétaire, ça consiste à gérer les taux d'intérêt et également à gérer les liquidités, la masse monétaire mise en circulation sur une zone monétaire comme l'euro ou la livre. Le régulateur, il a une vision, lui, beaucoup plus courte, beaucoup plus resserrée sur la sécurité du système bancaire, la sécurité du système financier. Or, en fonction de la politique monétaire, et notamment des liquidités ou des taux d'intérêt, de l'évolution des taux d'intérêt, eh bien, les banques peuvent être dans une situation plus ou moins risquée.
Et vous diriez qu'aujourd'hui, le régulateur a davantage ou moins de travail parce que la politique monétaire sur les taux d'intérêt est très particulière.
Ce que je dis, c'est que depuis 2007 et même un petit peu avant, les banquiers centraux ont injecté beaucoup de liquidités. Les taux d'intérêt sont très très bas. Et je dirais, les banquiers centraux ont quand même repris le pouvoir sur la régulation et sur la supervision bancaire. Alors, en Grande-Bretagne, on l'a vu en 2010, au changement de majorité, lorsque David Cameron est arrivé au pouvoir, la régulation est passée à la Banque d'Angleterre. Et en Europe, ben, la régulation bancaire, elle se joue quand même beaucoup à la BCE et assez peu, finalement, à l'autorité à l'autorité de régulation européenne. À mon avis, qu'elle soit à Paris ou qu'elle soit à Londres, elle aura toujours, dans les conditions actuelles des marchés, elle aura toujours un rôle résiduel.
Je vois que Philippe Tibi et Jésabelle Coupé-Souberan veulent réagir, juste pour changer un petit peu l'ordre d'apparition à l'antenne. Philippe Tibi.
Je crois que sur le, enfin, à la BCE, il y a deux bras. Il y a le bras qui la BCE stricto sensu qui est en charge de la politique monétaire, et puis il y a les organismes de supervision. Donc ce problème de conflit d'intérêts avait été évoqué à l'origine. Et je pense qu'il est assez bien traité. Je pense que le problème, c'est que les coups durs sont aujourd'hui traités par les autorités de supervision de Francfort. Donc la BCE, pour aller rapidement. Les coups durs, il n'y en a pas tellement, mais il y a toute la situation italienne, en fait, qui inquiète beaucoup. Les difficultés des banques Montepaschi ou de banque Toscane récemment, et d'autres banques à venir, ont montré qu'il y avait, là, il y avait des conflits importants entre les régulateurs locaux, c'est-à-dire les régulateurs italiens, et puis les autorités de supervision. Donc, en fait, pour le reste, s'il y a des problèmes dans le système bancaire, aujourd'hui, ils sont difficiles à voir parce que l'action de la banque centrale, donc c'est une action dite accommodante, hein, qui donne des liquidités, qui assure que le système aujourd'hui ne peut pas avoir de vraies difficultés. Mais quand il y a une difficulté, comme c'est le cas d'Italie, un pays qui n'a pas de croissance depuis 17 ans, des centaines de milliards de prêts qui ne seront pas remboursés, ce n'est pas l'autorité bancaire, le régulateur, mais c'est l'autorité de supervision qui est en première ligne.
Alors, on va voir justement dans un instant ce que valent les instruments aujourd'hui au cas où de nouvelles difficultés adviendraient, mais là aussi pour réagir, Jésabelle Coupé-Souberan.
Oui, je crois que depuis le début, on est peut-être un peu confus sur un point, à savoir ce qu'on entend par régulation ou régulateur, parce que c'est un mot un peu fourre-tout, le régulateur. Et quand on parle de régulation, il faut distinguer...
C'est celui qui fait appliquer les règles.
Alors, justement, quand on parle de régulation, il faut distinguer les règles, la réglementation, et puis la surveillance de la bonne application de ces règles. Il y a le régulateur qui fabrique les règles, et puis il y a le superviseur qui vérifie la bonne application de ces règles. La Banque Centrale Européenne, en Europe, est devenue à travers son conseil de surveillance prudentielle, le superviseur des banques. Les règles, les réglementations, à travers les directives européennes, elles sont le produit de la Commission européenne, du Conseil européen, et l'autorité bancaire européenne a un rôle à jouer en la matière, parce qu'elle est consultée sur cet aspect-là. Donc il y a bien quand même, si vous voulez, un partage des tâches assez clair, avec la BE qui est plutôt du côté fabrication des règles, bonne pratique, code de bonne conduite, etc. Et puis la Banque Centrale Européenne, à travers son conseil de surveillance prudentielle, qui est dans la supervision.
Je vous propose d'ailleurs peut-être d'ajouter un petit peu de complexité à cette complexité-là, puisque quand on parle de régulation bancaire, alors là on en parle beaucoup au niveau européen, mais on a bien vu qu'en 2007-2008 c'était un problème qui est dépassé largement les frontières de la seule Europe. Est-ce que en termes de conception justement de la régulation, on peut dire qu'il y a des conceptions très différentes, par exemple entre l'Europe et les États-Unis, Frédéric Pelletier? Je vous pose la question parce que il y avait une dépêche dépêche AFP hier qui revenait sur les intentions de Donald Trump en termes de régulation financière. Alors, il a promis pendant sa campagne revenir sur un certain nombre d'éléments de régulation qui avaient été passés. Là, il y a le renouvellement du directoire de la Banque centrale américaine qui va aussi peut-être lui permettre de placer des personnes qui correspondrait mieux à sa politique. Est-ce qu'on est vraiment face à deux mondes ou est-ce qu'on a avancé quand même depuis 10 ans vers une, ce qui pourrait être alors une régulation bancaire internationale?
Alors, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la régulation et même la supervision, et on a raison de faire la distinction entre les deux notions, est quelque chose qui s'inscrit toujours dans une compétition économique entre des places financières. La place financière en Europe de la City est en compétition avec Paris, avec Francfort. Elle est en compétition avec Wall Street aux États-Unis. Et il y a toujours derrière les discussions qui sont des discussions diplomatiques mais très économiques concernant l'application de telle ou telle règle de bonne conduite ou telle règle de couverture de risque, etc. Il y a toujours une dimension dans chacun des pays, une dimension commerciale et de guerre commerciale. On n'est pas dans un monde où les gens ne se font pas une compétition acharnée en matière financière.
Sauf que ça, on aurait pu le comprendre avant la crise financière d'il y a 10 ans. Mais depuis, est-ce qu'il n'y a pas quand même eu une prise de conscience qu'il fallait peut-être aussi transcender cette compétition pour aller vers des instruments un peu plus communs?
Cette prise de conscience, elle repose sur le fait qu'effectivement, les crises systémiques peuvent entraîner des répercussions dans d'autres places financières et toutes les places financières étant interconnectées, elles ont un intérêt commun à avoir un socle de régulation et de sécurité qu'elles discutent ensemble. Mais prenons par exemple le cas de la Grande-Bretagne lorsqu'il s'est agi de parler de des bonus et donc des bonus des banquiers et de la du plafonnement des bonus. La Banque d'Angleterre qui pourtant devait mettre en œuvre une directive européenne puisqu'elle n'était pas encore sortie et le Brexit n'avait pas encore été voté, la Banque d'Angleterre a dit nous on n'est pas tout à fait d'accord avec la conception de l'Europe s'agissant de la rémunération et du blocage des rémunérations des banquiers. Donc tout ça parce que les banquiers qui s'installaient à Londres, mais pas forcément depuis la France, depuis les États-Unis, etc., voulaient des rémunérations plus importantes pour rester sur place, tout simplement.
Est-ce qu'on a quand même un peu avancé, malgré tout, depuis 10 ans, depuis ces dernières années, Philippe Tibi, en termes de régulation bancaire, l'union bancaire, par exemple, je ne sais pas si c'est un rapport, il me semble que oui. Est-ce que ça n'a pas contribué quand même à aller un petit peu plus
On a avancé en Europe. On a avancé en Europe, donc l'union bancaire, ça vise à rompre le lien entre la dette des États et la dette des banques. Donc c'est un facteur de stabilité, sans rentrer dans les détails. Mais Frédéric a raison, tous les gouvernements considèrent que le secteur bancaire est un secteur de souveraineté. Donc tous les gouvernements veulent protéger leurs banques. Donc ce qu'a annoncé Donald Trump, qui en fait concerne plutôt la banque de détail, c'est-à-dire de relâcher la protection des citoyens américains qui, comme à l'époque des subprimes, prendraient des crédits qu'ils ne pourraient pas rembourser. Donc il y a une libéralisation de ce côté-là. Mais le cœur du sujet sur la coopération mondiale, c'est quelles sont les règles de risque qu'on va appliquer aux banques. Et le problème, c'est que les banques américaines n'ont pas la même structure que les banques européennes. Donc, ce qui est proposé par les Américains leur va très bien et ne va pas du tout aux banques européennes. Par exemple, sur le risque immobilier, qui est très important, c'est 2/3 des bilans, c'est 2/3 des risques français, par exemple. Donc, il y a une guerre qui se présente sous des aspects techniques. C'est quel est le bon pourcentage du risque? Est-ce qu'il faut considérer des risques pondérés ou des risques bruts? Enfin, des trucs je pense, échappent à bon droit à 99,99% des gens. Mais derrière cela, il y a le fait que les banques américaines ont étendu leur empreinte sur le business bancaire mondial, que vous avez les banques chinoises qui arrivent et qui accompagnent leur pays également, et que vous avez une Europe qui a échapper partiellement au nationalisme bancaire, qui est une des causes de la crise en Europe, grâce à l'union bancaire qui mutualise un certain nombre de risques, mais qui essaye de défendre ses propres banques et ses parts de marché face aux Américains.
Donc la compétition entre pays comme principal obstacle à une meilleure régulation bancaire, Jezabel Coupet-Soubéran?
Je ne sais pas si c'est la compétition entre pays, c'est plutôt, si vous voulez, souvent la volonté de chaque pays de défendre ses champions nationaux, ces grandes banques qui constituent un obstacle à la régulation. Et puis ce qui constitue également un obstacle au progrès de la régulation, c'est la résistance opposée par le lobby bancaire qui s'infiltre jusque chez les régulateurs et jusque au plus haut niveau de l'État.
Pas forcément le cas de la France. Il y a eu, je le rappelais au début de l'émission, en 2013, une loi de régulation et de séparation des activités bancaires. Alors, ça, c'était quand même un effort, a priori, fait en matière de régulation.
Alors, c'était peut-être un effort de communication, cette loi bancaire de séparation et de régulation des activités bancaires, elle n'a strictement rien séparé. Alors après, il y a d'autres aspects dans cette loi bancaire
Elle a filialisé certaines activités, c'est
oui,
ça?
Oui, de l'aveu même des banquiers qui ont été auditionnés par le Sénat, ça sépare... Allez, on va dire 1-2% de leurs activités de marché spéculatives. Donc ça ne sépare rien du tout. Et je pense qu'il faut pas surestimer, si vous voulez, la bonne volonté française en matière de régulation financière. On a eu des exemples de mots très durs prononcés par l'ancien gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, pour ne pas le nommer, à l'égard, par exemple, de la réforme structurelle qui avait été proposée par Michel Barnier. Barnier en 2014. Il l'avait qualifié d'irresponsable. D'accord, c'est un mot quand même assez fort. De la même manière, Christian Noyer et d'autres représentants du secteur bancaire, parce qu'au fond, il s'était un peu mué en représentant du secteur bancaire, ont dit tout le mal qu'ils pensaient d'une taxation des transactions financières, au point d'ailleurs que, le projet européen aujourd'hui ne verra pas le jour. Et quant à l'actuel président quant à l'actuel gouverneur de la Banque de France, bon, il n'a pas joué un jeu très très clair dans la finalisation des accords de Bâle III qui ont consisté à renforcer les exigences de fonds propres vis-à-vis des banques. Mais il y avait un point sur lequel il fallait revenir, c'était cette autorisation faite aux banques d'utiliser leurs modèles internes. Tout cela pour l'instant n'est pas en train d'aboutir. Donc ne surestimons pas la volonté française et puis n'opposons pas systématiquement non plus soi-disant la bonne volonté européenne et puis une mauvaise volonté anglo-saxonne. Je ne crois pas que les choses soient aussi caricaturales que cela.
Les accords de Bâle III que vous évoquez, dont j'ai l'impression qu'on parle depuis déjà quelques années, dont j'ai découvert en refaisant une émission justement sur cette question de la régulation bancaire, que les discussions n'avaient toujours pas abouti. Il y a une réunion du comité de Bâle qui est prévue, je crois que c'est mi-décembre, pour essayer de mettre les différents pays d'accord justement sur les niveaux de risque, disons. Enfin, je ne sais pas exactement comment il faut dire les choses, mais pourquoi ça avance aussi lentement, Frédéric Pelletier? Alors, vous avez évoqué justement le côté compétition, mais...
Il n'y a pas que le côté compétition, il y a effectivement le côté compétition. Et puis derrière la compétition, il y a peut-être des visions nuancées de la place du marché, du rôle du marché, parce que il faut bien comprendre que les banques ont quand même changé de paradigme depuis une vingtaine d'années, y compris les banques en France. Les banques sont des acteurs des marchés financiers et il se passe beaucoup de choses sur les marchés financiers. On parle des banques, mais en réalité, aux États-Unis, par exemple, le financement de l'économie est apporté à peu près à 65% directement par le marché, et les banques n'ont qu'un rôle d'intermédiation de marché. Les banques telles Goldman Sachs n'ont qu'un rôle d'intermédiaire de marché, alors que en France, le crédit à l'économie, c'est l'inverse, c'est plutôt 60% ou même un peu plus apporté par les banques et le reste par le marché. Donc il y a derrière ces discussions sur la bonne régulation, il y a quand même des conceptions, à mon sens, différentes sur quel est le rôle du marché, qu'est-ce qu'on peut laisser faire par le marché? Est-ce qu'il peut s'équilibrer tout seul, ou est-ce qu'on a besoin d'un régulateur pour fixer des bornes au marché en disant ça, il est possible de le faire, ça, il n'est pas possible de le faire, on peut spéculer, mais jusqu'à une certaine limite, etc. Et on le voit aux États-Unis, après la crise des subprimes, il y a eu ce fameux Dodd Act qui est revenu sur cette séparation entre les banques commerciales et les banques d'investissement, les banques de marché. Finalement, cette loi qui avait été passée à grand renfort de publicité n'est appliquée que très très marginalement et ne sera finalement sous la présidence Trump absolument pas appliquée parce que là-bas c'est le marché qui doit équilibrer les choses et pas le régulateur.
Oui, au rayon des autres grands disparus, vous évoquiez Gisabelle Coupé-Soubeyron, donc ce projet de réforme structurelle des banques européennes qui avait été présenté il y a 3 ans par Michel Barnier. Qu'est-ce qu'il est devenu ce projet, Philippe Thiby ?
Non, mais c'est toujours le même débat. C'est-à-dire, c'est le débat sur le. Et je suis désolé parce que c'est un débat qui est technique, mais c'est sur le niveau de fonds propres que les banques doivent garder pour couvrir leurs risques. Et donc sur ces sujets, on a. C'est une difficulté commerciale pour les banques puisque leurs profits dépendent des risques qu'elles prennent. Si on cantonne leur prêt ou leur position de marché, on a une difficulté.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut assumer que les banques prennent des risques et que ces risques puissent se solder par de grosses difficultés.
En tout cas, il faut le savoir, il faut les analyser. Donc il y a ce sujet-là, il y a le sujet de la séparation bancaire, qui est un sujet qui, je pense, est un sujet indécidable. En tout cas, mon opinion, c'est que c'est un sujet indécidable parce que il n'est pas prouvé que la banque de détail soit moins dangereuse que la banque de marché. En tout cas, il y a eu des faillites dans les deux cas. Il y a eu des faillites de banque universelle comme le Crédit Lyonnais. Donc, si vous voulez, c'est vrai que il y a des intérêts qui essayent de faire entendre leur voix. Ils le font entendre de façon relativement transparente. Et il y a des intérêts divergents en Europe sur ces questions. Si vous êtes français, vous avez des banques universelles qui sont très puissantes. Si vous êtes allemand, ou italien, vous êtes dans une configuration dans laquelle vous avez des banques régionales qui concentrent beaucoup des risques. Donc, il n'y aura pas d'accord magique parce que derrière ces positions, il y a des intérêts commerciaux qui sont très précis.
Est-ce que vous partagez cette vision de la régulation bancaire, Gisabelle Coupé-Soubeyron ?
Je crois qu'il faut bien faire la différence, là aussi, entre réforme structurelle et puis réforme prudentielle. Donc, en réponse à la crise, il y a eu des exigences de prudence un peu plus grandes dans le cadre de réformes dites prudentielles. Au niveau structurel, au niveau de l'orientation ou de la réorientation du modèle d'activité des banques, au niveau de la taille des banques, au niveau de la concentration du marché bancaire, il n'y a rien eu, pour ainsi dire. Alors, la réforme structurelle, elle visait à s'attaquer à ce type de problème, avec une réponse qui était la séparation des activités bancaires. On peut considérer que la séparation des activités bancaires, c'est pas forcément la meilleure option structurelle qui soit, mais en tout cas, c'était une tentative de réponse à ces problèmes structurels qui avaient été mis en évidence en Europe par le rapport Liikanen, qui montrait que les banques européennes, pour la plupart, étaient trop grosses, que la concentration du secteur bancaire européen était trop importante dans la mesure où vous avez des grandes banques qui sont en position dominante au sein de chaque pays.
Et s'agissant de la France, manifestement, c'est toujours le cas, puisque la semaine dernière a été publiée la liste annuelle du Conseil de stabilité financière, qui est un organisme international affilié au G20. Je lis la dépêche AFP que j'ai sous les yeux, et dans laquelle on peut lire que, hors Royaume-Uni, qui est toujours un petit cas à part, la France reste le pays de l'Union européenne à compter le plus d'établissements d'importance systémique.
Oui, alors il y a effectivement une trentaine de banques systémiques au niveau mondial. Et cette liste-là, elle est produite chaque année par le Conseil de stabilité financière. Parmi ces 30 banques systémiques au niveau mondial, vous en avez à peu près la moitié qui se situe en Europe et vous en avez trois en France. D'accord. Donc on a de grandes banques systémiques en France, et c'est un problème. Et ce problème, il n'est pas véritablement pris en considération, parce que nos gouvernants et également nos régulateurs, entre guillemets, ont plutôt à cœur, le plus souvent, de défendre les intérêts de ces grandes banques.
Est-ce que ça veut dire, Frédéric Pelletier, que ce qui s'est passé il y a 10 ans pourrait se reproduire de la même manière aujourd'hui en 2017 ou en 2018? Et question subsidiaire, est-ce qu'on serait mieux préparé malgré tout à, disons, à absorber les effets d'une nouvelle crise?
Alors, ça ne se produit jamais de la même manière, mais ça se reproduit toujours. Ce qu'a dit Philippe est très important. Une banque, c'est un établissement, c'est une entreprise qui gère des risques d'argent. Il y a deux types de risques. Le risque traditionnel de la banque, qui est de prêter de l'argent à ses clients, c'est donc un risque de crédit, un risque de signature. Est-ce que le client à qui je prête de l'argent va être capable de me le rembourser ou pas? Donc tout ceci repose sur une analyse financière, une analyse de ce qui est financé, une analyse du client, etc. Une analyse crédit. Ça, c'est le métier classique de la banque.
Et puis, il va quand même chercher à limiter les risques, j'imagine.
Ah ben bien sûr. Et donc les règles prudentielles, la régulation vise justement à encadrer la manière dont la banque prend ce type de risque, par une division des risques, par un risque maximum qu'on peut prendre sur la même signature, etc. Là, et donc par le niveau de fonds propres qu'il faut mettre en face de chaque risque. Et puis, il y a un deuxième type de risque, c'est la banque de marché, qui est un risque de marché. C'est-à-dire que c'est un risque de valeur d'actifs, d'évolution de valeur d'actifs. Et c'est de là que sont venus les risques des dernières crises. Pourquoi? Parce que les banques s'étaient énormément développées sur ce type d'activité, au travers des mécanismes de titrisation ou d'autres mécanismes, je dirais, de pure spéculation sur les marchés. Et ces risques-là aussi doivent être limités, diversifiés, limités.
Ils le sont aujourd'hui ? Ils le sont davantage qu'ils ne l'étaient ?
Oui, ils le sont. Ils le sont davantage qu'ils l'ont été, mais force est de constater aussi que la spéculation continue à se développer, qu'il y a des poches de risque importantes. Aux États-Unis, on parle des crédits étudiants, on parle aussi du crédit auto, on parle aussi du risque qui pourrait venir de la bulle spéculative autour de la Chine, des crédits, des actifs, etc. Donc des poches, disons, de risques qui peuvent affecter les banques, puisque les banques soit prêtent pour financer des projets, soit vont faire des arbitrages d'actifs sur ce type de produit. Oui, effectivement, aujourd'hui, on peut dire que le risque de l'éclatement d'une bulle quelque part n'est pas éteint. Il y a, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, des problématiques encore sur la dette souveraine et notamment et sur la dette en Italie. Donc des zones de risque qui peuvent déclencher des crises, il y en a beaucoup, il y en a toujours. Et la réglementation, je dirais aujourd'hui, n'essaie pas vraiment de réduire ces risques, mais de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas systémiques.
Philippe Thibi ?
Oui, moi je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Isabelle. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement le système bancaire européen est trop gros. C'est-à-dire que c'est 400% du PIB de l'Europe et c'est les risques bancaires. C'est 80% aux États-Unis pour les plus grandes banques. Donc ça, je suis d'accord. Il y a un risque qui est porté par les banques en Europe et dans tous les pays, parce que les banques font beaucoup de crédits, beaucoup plus de crédits en Europe qu'aux États-Unis. Moi, je ne pense pas que ce soit en les découpant par banque de marché ou banque de détail qu'on réglera le problème. Parce que, encore une fois, on a vu des sinistres très importants en Angleterre. La crise, c'est une banque de détail. Aux États-Unis, c'est une banque d'investissement. Et notre Crédit Lyonnais National, c'est une banque universelle. Donc, les problèmes arrivent partout. Je pense qu'il faut effectivement dégonfler le bilan des banques. Dégonfler le bilan des banques, ça veut dire donner plus de place au marché. Ça veut dire que ce qui est fait aujourd'hui par les banques pour financer l'économie le sera, ou pourrait l'être, par des acteurs différents, des acteurs dits du shadow banking, en tout cas du bon shadow banking, c'est-à-dire des compagnies d'assurance.
Il y a un bon shadow banking.
Oui, il y a un bon, les compagnies d'assurance, c'est du shadow banking, c'est tout ce qui est qui finance l'économie, mais qui n'est pas garanti par une banque centrale. Donc c'est de l'épargne qui viendra financer, qui financera l'économie. Donc je pense qu'il faut, ma position personnelle, c'est qu'il faut avancer et continuer d'avancer vers cela. C'est-à-dire que les banques, c'est un facteur de risque très important dans l'économie. C'est des risques qui peuvent être cataclysmiques. Il faut réduire la taille du bilan des banques.
Eh bien, c'est sur ces paroles-là que nous allons nous quitter pour ce soir. Merci beaucoup, Gisabelle Coupé-Souberan, Frédéric Pelletier et Philippe Thiby, d'avoir participé à cette discussion. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et également la télécharger. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Élise Leu.